Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, mon invitée, c'est Sandrine Banessi. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Voilà, elle va nous parler de la maison d'édition Tourisme Média Édition, TME exactement, qui est basée à La Bège, dans notre ville rose, et qui va nous expliquer un petit peu tout ce que cette maison d'édition propose d'original à nos lecteurs, à nos auditeurs. On en parlera dans quelques instants, après quelques petites infos oui, j'en ai pas beaucoup cette semaine. À l'approche de Noël, j'ai quand même quelques petites choses, mais j'en ai moins que d'habitude. Alors, tout d'abord, vendredi 14 décembre, donc c'est demain, à 14h30, à la médiathèque de Tournefeuille, vous aurez le plaisir d'assister à une lecture-spectacle à trois voix sur les textes de Tchekhov. Une lecture donc à trois voix, comme je vous le disais, avec Frédéric Aubry, Olivier Clément et Christian Rizou. Et la mise en voix et en espace est faite par Anne Cameron de l'association Autre Mot. On l'avait reçue à Page à Page il y a déjà au moins 2 ans. Et donc elle continue donc avec cette lecture spectacle à trois voix. C'est donc demain, vendredi 14 décembre à 14h30 à la médiathèque de Tournefeuille. Donc je vous invite à y assister parce que Tchekhov, eh bien, écoutez, c'est bien, bien sympathique. On parlait de Russie tout à l'heure. Alexandrine, Tchekhov, ma foi, c'est très appréciable. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Alors, et puis le 15 décembre, eh bien, samedi 15 décembre, qu'est-ce qui se passe à la librairie de la Renaissance? Eh bien, c'est comme nous l'avait annoncé Roselyne Gutiérrez la semaine dernière, ici même, dans le studio de Radio Occitanie. Eh bien, c'est le dernier jour de ces 60 printemps, parce qu'on a fêté les 60 printemps de cette librairie, qui, comme elle nous l'avait expliqué, a été créée par des écrivains résistants. Et donc, dernier volet, samedi 15 décembre, c'est de 14h30 à 19h, non 14h d'ailleurs à 19h. Donc toute l'après-midi, vous pouvez vous y rendre, c'est portes grandes ouvertes avec un festival de personnalités, d'écrivains, d'auteurs, dont Daniel Pénac, pour ne citer que lui, mais non, on va en citer d'autres. Il y a Pascal Dessin, bien sûr, et puis le grand Claude Mesplède pour son dictionnaire de la littérature policière. Je crois que vous le connaissez,
oui,
Sandrine.
Oui,
un grand monsieur
et un ouvrage de référence essentiel et remarquable.
Bon. Et donc, vous allez y aller
Oui, bien sûr.
Ah, vous y serez.
Oui.
Donc, c'est samedi 15 décembre. Alors, je vous rappelle l'adresse de cette librairie très, très originale et surtout très passionnée et très engagée, hein, comme nous l'avait expliqué Roselyne la semaine dernière. Donc, c'est 1 allée Marc Saint-Saëns, au terminus de Basso-Cambo. Et le numéro de téléphone pour tout renseignement, c'est le 05 61 44 16 32. 05 61 44 16 32. Et donc, n'hésitez pas à venir passer l'après-midi avec tous ces auteurs. Je vous en ai cité que quelques-uns, mais il y en a une ribambelle, hein. Et donc, le tout dans la convivialité, dans le partage, donc, de ce plaisir de lire, de découvrir des auteurs, des livres. Et puis, donc, Daniel Pénac. Donc, d'ailleurs, je ferai une émission, la dernière de l'année 2007. La semaine prochaine sera dédiée à, enfin, l'auteur sera Daniel Pénac, je ne l'aurai pas ici physiquement, mais je parlerai de son dernier livre, Chagrin d'école, qui a reçu le prix Renaudot récemment. Voilà. Et puis la dernière petite info, Le Griffon Bleu, cette maison d'édition jeunesse basée à Haute-Rive avec notre ami Didier Debord, eh bien le 15 et 16 décembre, donc samedi et dimanche, le Griffon Bleu sera présent au marché de Noël d'Haute-Rive, là où est basée donc cette maison d'édition jeunesse. Alors, comme dit Didier, pour trouver, suivez l'odeur du vin chaud. Alors, je vous précise quand même que c'est derrière, apparemment derrière la poste, ça sera un grand sous un hall derrière la poste. Poste et le Griffon Bleu, donc qui sera présent avec des auteurs et puis des livres, des auteurs pour dédicacer des livres. Et puis, comme c'est l'approche de Noël, je pense que ça serait une bonne idée d'offrir un livre à un enfant ou bon, à un adulte également. On peut citer notamment, comme j'ai reçu là dans l'année, Marie Milissou pour Bleu Conquête, pour un public, on va dire, de pré-ado, hein, une dizaine d'années, 10-12 ans. Et puis, Amo Ilena, illustré par Monique Mazarguil, un très bel album pour les enfants là plus petits, hein, on peut dire.
Oui, on est sur une dizaine d'années là aussi.
Voilà, là aussi une dizaine d'années, mais enfin, c'est pas tout à fait pareil, c'est deux livres fort différents, voilà, dont j'ai reçu donc pour l'un l'illustratrice donc Monique Mazarguil et puis pour l'autre l'auteur elle-même Marie Milissou, mais le livre qui avait été aussi illustré, je crois, par Monique Mazarguil.
Oui, il me semble.
Conquête, hein.
Oui, il me semble qu'elles avaient travaillé.
Mais il y avait moins d'illustrations parce que c'est un livre un peu plus c'est moins un album quoi.
Oui, le propos était moins l'illustration que.
Mais Amo Ilena, c'était vraiment, vous l'avez vu d'ailleurs.
Ah oui, c'est ravissant. C'est un très, très joli travail.
Ouais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller samedi et dimanche à Haute-Rive en suivant donc l'odeur du vin chaud derrière la poste, quand même, on précise, pour y rencontrer, eh bien, notamment notre ami Didier Debord avec des auteurs. Et puis, voilà, si vous avez envie d'offrir un petit livre à un enfant, n'hésitez pas. C'est toujours un grand plaisir, je crois, de faire découvrir la lecture ou de faire redécouvrir la lecture à des enfants ou à des adultes. C'est le but un peu de l'émission et puis des maisons d'édition également.
Oui.
Voilà. Donc voilà pour la dernière petite info.
Page à page, Claire Ambille. Pou, pou, pitou.
Voilà, donc je me tourne maintenant vers Sandrine. Alors, cette maison d'édition TME existe depuis une dizaine d'années.
Oui.
Déjà.
Oui,
donc,
oui.
C'est pas, voilà, elle n'est pas toute récente, hein, elle n'est pas toute neuve.
Non.
Et donc, ça a commencé, déjà, bon, voilà, il faut être, je pense, déjà passionné par la ville où on vit pour pouvoir avoir l'idée de faire une maison d'édition qui, quand même, a le sujet du patrimoine comme en point de mire.
Oui, comme ligne éditoriale essentielle et surtout, l'envie de comprendre pourquoi et comment. Pourquoi et comment aujourd'hui on est dans une ville comme ça ou dans une région comme ça? Comment elle s'est développée? Qu'est-ce qui, au fil des siècles, l'a construit et fait que l'on vit comme ça aujourd'hui?
Alors, ça a débuté par des jolis livres, donc des beaux livres, des jolis livres, comme vous me
disiez tout à l'heure. Oui, on appelle ça des jolis livres. C'est une dénomination qui n'existe pas officiellement.
Oui, en général, on dit plutôt beaux livres, mais là, jolis livres, c'est un côté joli.
Voilà, mais le beau livre est, par principe, un ouvrage assez grand.
Tout à fait.
Très complet, très riche en informations. Assez
et en photo.
Coûteux, et en photo. Et en même temps, est un ouvrage assez coûteux, qu'on a dans la bibliothèque, qu'on consulte, mais qu'on ne confie pas facilement,
ni
à quelqu'un, et encore moins aux enfants.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, on a voulu faire avec ce qu'on appelle, nous, les jolis livres, le même type de travail, c'est-à-dire on a plus de 250 illustrations par ouvrage, un travail de fond et de documentation important, une bibliographie justifiée, pour que les gens puissent compléter en même temps leur recherche aussi et avoir les références, mais dans un format et à un prix qui fait que voilà, on peut s'offrir facilement la collection, on peut le mettre entre toutes les mains de façon à ce que tout le monde accède à l'information.
Voilà, pour que ça soit vraiment ouvert à tous, que ça soit plus facile.
Voilà, c'est pour ça qu'on parle de jolis livres par rapport aux beaux livres.
Et donc, le thème, bien sûr, c'est la ville de Toulouse, sa région. La ville et la région.
Des thématiques sur lesquelles on a peu ou pas d'informations, sur des thèmes qui nous paraissent, nous, par exemple, essentiels, comme par exemple le pastel.
Voilà. Du côté d'Albi,
du côté de Toulouse, tout le Lauragais, quelque chose de fondamental pour le Toulouse d'aujourd'hui et sur lequel on n'a quasiment pas d'ouvrage.
Oui, parce que le passé est important forcément pour
essentiel.
Le présent est fait de notre passé. Donc il faut connaître le passé afin de comprendre le présent et,
tout à fait, parce
et d'anticiper
que,
l'avenir.
En même temps, voilà. Et c'est pour ça que ça nous paraît essentiel. On a fait un ouvrage aussi sur la brique. On a très peu d'ouvrages pour dire, voilà, pourquoi cette brique-là n'est pas la même que la brique du Nord, pourquoi là plutôt qu'ailleurs dans le Midi Toulousain autour de la Brique. Voilà, on s'attache chaque fois à partir sur des thèmes sur lesquels on n'a finalement pas tellement d'informations, mais qui nous paraissent, nous, essentiels pour la compréhension de notre ville et de notre région.
Je pense que vous êtes la seule maison d'édition dans la région à faire de tels ouvrages.
Oh, franchement, je peux pas dire ça.
Bah, si,
on est plusieurs à faire.
Enfin, oui, mais, voilà, mais moi, après, je trouve l'idée est originale. C'est vrai que bon, on édite plein de livres sur plein de choses, mais c'est vrai qu'on oublie des fois un petit peu, peut-être, l'essentiel.
Les choses les plus essentielles.
Oui, mais, oui, tout à fait.
Bon, là où on est content, c'est qu'on a fait, par exemple, le premier livre sur la violette de Toulouse, où tout le monde nous disait, oui. Alors là, incroyable, aucun livre sur la violette qui est le cadeau emblématique de la ville.
Ouais, ouais.
Quand on l'a fait, nous, moi, notre distributeur, tout le monde nous a dit de ne pas le faire, que ça n'intéresserait personne. Non seulement on l'a fait, mais on l'a même réédité. Et depuis, il y a deux autres ouvrages qui ont suivi. Donc voilà, on est ravis de faire école.
Bah, oui.
Voilà. Donc c'est un exemple.
C'est curieux parce qu'il y a plein de produits qui sont vendus à Toulouse. Oui. Les savons à la violette, les bonbons à la violette, le parfum de violette.
Mais
genre, tout un tas de choses.
Voilà, mais les trois quarts des Toulousains ne savent pas pourquoi.
Pourquoi voilà. Et pourquoi?
Et pourquoi? Parce qu'on a.
Moi, je suis pas d'ici, voilà. J'ai l'excuse.
Non, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on a développé à Toulouse pour, en plus, c'est des histoires d'amour, des légendes très jolies. Mais on a développé à Toulouse une variété de violettes unique au monde, qui est une vraie variété de violettes multiples, qui s'appelle Violette de Toulouse, et qui a fait la fortune des maraîchers jusqu'au début du siècle, qu'on a exporté jusqu'en Russie. Le premier train express qu'on a eu de Toulouse, c'était pour permettre de livrer les violettes de Toulouse à la City de Londres. Donc c'est pour ça que tout est très intéressant.
Ah oui, effectivement.
Les premiers systèmes de collecte d'ordures ménagères à Toulouse ont été organisés par les maraîchers qui avaient besoin de fumer leurs terres pour les besoins de la culture de la violette.
Pour la violette.
Voilà. Ce qui est amusant, voilà, c'est de voir tous les tenants et les aboutissants.
Oui,
enfin, voilà,
il y a plein
de petites histoires comme ça.
Et puis c'est une très jolie fleur.
Oui, magnifique, vraiment somptueuse.
J'aime beaucoup la couleur et puis la fleur en elle-même.
Oui, somptueuse.
Non, c'est vrai que c'est très original, je trouve, comme idée. Donc vous servez vraiment la ville de Toulouse. Vous êtes originaire, vous êtes d'origine catalane.
Moi, je suis née ici, oui, voilà.
D'origine catalane, mais vous êtes née ici et vous aimez votre ville.
Voilà,
fière d'être toulousaine. Ouais. Ben, ça se sent. De toute façon, je pense pas qu'on puisse avoir l'idée, avoir la passion et le désir de faire des ouvrages tels que ceux-là si on n'a pas si on ne se sent pas vraiment inclus dans la ville, enfin vraiment faire partie intégrante de cette ville.
Oui, ça c'est sûr, ça correspond à un amour et en même temps une curiosité, une envie de transmettre.
Oui, c'est envie de transmettre aussi voilà de ce que vous avez appris, vous avez envie de le faire partager aux autres. Et donc voilà, donc les jolis livres. Et puis donc il y a aussi, vous avez donc quand vous avez commencé donc à cette maison d'édition, il y a aussi des guides. Voilà pour par exemple 15 promenades dans Toulouse avec toutes les sculptures des façades qui sont répertoriées dans ce guide avec des explications, etc.
Oui, le propos en fait c'est que ce sont toutes les sculptures, les fontaines, les statues.
Il y en a.
À Toulouse, on a un patrimoine de sculpture dont on parle peu, là aussi. Mais on a des artistes remarquables, un patrimoine remarquable. Et donc là, ce sont toutes les sculptures qui mènent la visite. C'est elles qui racontent l'histoire. Et ce qui est original dans ce guide aussi, c'est que pour une fois, on sort du simple quartier historique. On fait tous les quartiers de Toulouse, plus les faubourgs.
Plus les jardins.
Je trouve que
c'est très intéressant. Donc oui, c'est très complet. C'est un guide vraiment très complet et avec des belles photos. Hein.
Et tout ce qui est à voir est illustré. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile quand on fait une visite avec un guide d'être sûr de trouver le bon élément qu'il faut regarder. Donc tout ce qui est à voir est en photo.
Il y a même des petits plans pour se situer.
On a des plans très détaillés. On part des métros ou des parkings. On revient à des métros ou des parkings pour essayer de faciliter.
Il y a même la nouvelle ligne de métro, la ligne B. Donc il est très actualisé. Donc les faubourgs,
sur
la page des faubourgs, justement. Oui, donc c'est très complet, quoi.
Oui. Et donc, ça, on va l'étendre sur d'autres villes de France.
D'accord. Donc là, c'est sur Toulouse, donc celui-ci. Oui. Mais donc, vous allez l'étendre.
Le prochain sera sur Lyon.
Sur Lyon. Ah oui, là, il y a beaucoup de choses aussi.
Bordeaux.
Ah oui, Bordeaux. Ah, oui.
Donc, les deux prochaines destinations en préparation.
Donc des projets, plein de projets pour TME. Ouais. C'est ce qu'il faut. Et donc voilà, donc on parlait donc des jolis livres, des guides, et puis il y a donc depuis la rentrée de l'automne, il y a une nouvelle collection.
Oui.
Alors qui s'appelle
Noir d'histoire.
Noir d'histoire.
Ouais. Donc en fait.
Alors qu'est-ce que c'est Noir d'histoire ?
L'idée, c'est toujours sur le patrimoine. On reste, nous, fidèles à notre ligne éditoriale, mais l'idée, c'est de pouvoir présenter d'autres patrimoines, d'autres lieux, d'une autre façon, en permettant aux gens de s'y immerger et de le vivre de façon différente. Donc à ce moment-là, pour faire ça, il faut des œuvres de fiction.
Et oui, pour que ça passe mieux, parce que voilà. C'est vrai qu'un livre avec qui raconte l'histoire, vraiment, ça peut être rébarbatif pour certaines personnes.
Oui, ça peut être des fois peu attractif.
Moi, je dis carrément rébarbatif, peut-être un peu excessif.
En tout cas, un peu didactique peut-être et peu attractif. Et donc là, on s'appuie sur des œuvres de fiction. Et puis, bon, nous, dans tous les ouvrages de référence qu'on fait habituellement, il faut qu'on ait un discours très très polissé et une dialectique très très travaillée, très grand public. Et donc là, avoir la liberté de l'œuvre de fiction, on avait envie d'en profiter pleinement, c'est-à-dire de vraiment aller jusqu'au bout. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris le biais du polar pour pouvoir exploiter à fond. Voilà.
Et ça sera toujours des polars, donc ça sera Noir d'histoire, ça sera toujours voilà.
Ce sont des polars ce sont des romans qui mènent l'enquête au cœur de l'histoire des régions.
Donc le décor est réel, hein, puisque on va parler donc le premier de la collection, c'est Les Chevelus de Benoît Séverac.
Oui.
Et donc c'est le décor donc est bien réel puisqu'il s'agit de Saint-Bertrand-de-Comminges. Hein, donc,
du site archéologique gallo-romain au pied de Saint-Bertrand-de-Comminges.
Voilà. Donc ça c'est bien réel. Puis après il y a toute une fiction autour de ce site. Enfin donc toute une enquête policière qui est une fiction.
Une fiction. Voilà. Oui.
Et on apprend certainement beaucoup de. Bon j'ai pas eu le temps de le lire bien sûr, mais on apprend certainement beaucoup de choses sur ce site archéologique.
Tel qu'il est décrit dans le roman, il est effectivement, il y avait des termes, il y avait le forum, il y a eu un très beau trophée, enfin vous le verrez dans l'ouvrage, les Pyrénées sont là, la Garonne aussi, enfin tout ce qui est décrit
tout y
est réel. Mmh. Mais par contre, on s'est attaché avec cet auteur et avec les autres auteurs c'est en fil rouge, enfin ça apparaît dans l'ouvrage, mais on ne veut pas être pédagogique dans ces ouvrages-là. On s'arrêtera pas pour décrire telle chose de façon très pédagogique. C'est vraiment un théâtre des opérations, mais ça reste quand même l'idée générale et le roman et l'enquête.
Ça vous embête de lire la quatrième de couverture pour donner une idée aux auditeurs un petit peu donc de ce que c'est que chevelu. Alors c'est chevelu UES, hein, parce que ça parle de filles, vous m'avez dit.
Oui, mais on ne peut pas en dire plus.
Non, on n'en dit pas plus. Et c'est donc de Benoît Séverac, édité donc par TME. Alors la quatrième de couverture, je vous laisse donc Sandrine nous lire.
C'est très difficile pour moi de le lire, je ne l'ai jamais fait, mais je peux par contre je peux dire quand même le principe. Hein. Le principe est ce que vous retrouvez sur la quatrième de couverture, c'est la présentation du décor. Et on est au tout début de la Pax Romana. C'est une période qu'on connaît mal, hein. Ça paraît assez idyllique en disant voilà les Romains sont arrivés, on a tous vécu ensemble, ils ont appris plein de trucs, c'était magnifique.
Mais ça s'est pas vraiment passé comme ça.
Pas vraiment.
Pas aussi facilement.
Mm-hmm. C'est quand même une armée qui arrive et derrière une administration, c'est quand même une occupation. Et là, ça c'est vrai, on retrouve à Lugdunum les Gaulois et les Romains qui vont quand même tout faire pour que tout se passe bien, mais en fait il y a une vague de crimes qui va compromettre ce bel équilibre. D'accord. Et plusieurs personnes vont essayer quand même de le maintenir avant l'arrivée de la Légion romaine qui est dépêchée de Toulouse Voilà, donc ils ont 5 jours pour essayer.
D'accord. Et le personnage principal, celui qui mène l'enquête, héros Falco, c'est
Valerius
ça?
Valerius Falco, oui.
Voilà. Est-ce qu'on va le retrouver dans les suivants, par exemple, les prochains Noirs d'Histoire?
Moi, j'en rêve.
Faire un personnage récurrent, quoi, en fait, un peu.
Moi, j'en rêve. Mmh. Je ne suis pas la seule parce que Valerius, c'est vraiment un personnage formidable.
Fort en couleur. Formidable. Et ça serait bien de le retrouver d'autres enquêtes ailleurs, à Lyon ou dans d'autres villes. Enfin, à Lyon, je dis Lyon, mais enfin, genre dans d'autres villes qui ont marqué l'histoire.
Ah oui, oui. Puis les Romains, là, ont quand même bien sillonné la Gaule et donc ils pourraient effectivement se déplacer. Voilà.
Oui.
Pour le moment, l'auteur ne saura plus
forcément du même auteur à chaque fois, j'imagine.
Ah, pour cette collection
Noir d'Histoire.
Alors, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est, comme c'est une nouvelle collection et qu'on veut mettre en avant de façon originale ou le patrimoine, et dans patrimoine, on met à la fois des lieux ou des savoir-faire, des métiers, voilà. Et on veut en profiter pour être aussi un tremplin pour des nouveaux talents. Donc, Benoît Sévérac prépare déjà un deuxième ouvrage avec nous.
C'est son premier roman. C'est son premier roman. Il était nouvelliste jusqu'à maintenant, et donc c'est son premier roman.
Il a gagné 2 concours de nouvelles. Il a gagné celui du lecteur de Val, et puis celui d'Encre de Garonne, le dernier en 2004, avec des nouvelles. Et c'est effectivement son premier roman. On est en train de travailler avec d'autres auteurs. Effectivement, là, les prochains seront région sud-ouest, et on est en train de travailler avec d'autres auteurs sur d'autres régions de France. D'accord. Et chaque fois des nouveaux talents.
D'accord.
Voilà, ça, c'est le
but.
C'est le but de la collection. On veut être vraiment aussi en même temps
ouvrir au maximum pour que tout le monde ait sa chance, quoi. Finalement, oui. C'est une chance d'être édité.
On se rend moins compte, nous, de notre côté, mais c'est pas une chance, c'est une rencontre, en fait.
Oui,
je crois vraiment. C'est à un moment donné, voilà, c'est le bon moment pour tout le monde. On est
voilà, il faut que ça plaise à l'éditeur, et puis il faut que l'éditeur, il faut
plaise
que vraiment,
à l'auteur aussi.
Voilà, aussi. Oui, je crois que c'est vraiment un partage et une rencontre au départ. Ouais. Mais bon, c'est vrai que ça fait un sacré tremplin, quoi, pour un jeune auteur, enfin jeune ou moins jeune. Quand je dis jeune, c'est
nouveau,
pour son premier,
talent,
pour son premier livre. C'est toujours important de rencontrer une maison d'édition très ouverte et très pour se lancer dans ce métier, quoi. Et donc dans les projets à venir, donc pour TME, vous m'avez parlé donc d'une collection. Donc là, ça s'adresse plutôt, c'est pour adultes, mais on peut dire aussi un adolescent. Ça fait un peu juste.
Ça dépendra des ouvrages, mais là, celui-là, c'est quand même du sexe et du sang dans le commun. Hein. Donc on préfère le dire. Chacun est libre de son choix, mais pas énormément. Mais
des grands ados, alors.
Voilà, des grands ados. Voilà. Non, mais je préfère préciser. Des grands ados. Oui,
oui, parce que c'est sur fond de violence, quoi. C'est quand même, c'est pas. Oui. C'est pas la petite fleur bleue, c'est pas...
Non. Il y a un texte qui est, et puis il a une écriture très contemporaine, très très rapide, très très puissante, moi que j'aime beaucoup. Mais oui, grands ados et adultes plutôt.
Oui. Et donc justement, vous avez le projet pour 2008 d'ouvrir un petit peu une autre collection qui s'adresse donc plus
la spécifiquement seule chose qui nous manque,
à la jeunesse.
C'est la jeunesse, puisqu'on aura avec toute la partie joli livre, beau livre, on sera grand public. Avec Noir d'Histoire, on est plutôt adulte, donc il nous manquait la partie jeunesse, et qu'on va présenter en 2008, au printemps 2008. Voilà, là les premiers, il y aura deux ou trois livres, types de livres présentés en fonction des tranches d'âge, mais la première série sortira en avril.
Donc vous reviendrez nous en parler à la rentrée prochaine, à l'automne prochain, avec des nouveautés, pour les plus jeunes, quoi. Donc pour ouvrir un peu un public plus jeune, et puis avec peut-être toujours des sites ou quelque chose du patrimoine, justement.
Le principe de base, c'est toujours sur la ligne éditoriale du patrimoine. Voilà, oui. Mais décliné pour les plus petits.
Voilà, décliné sur de différentes façons, mais avec quand même le point de départ, ça sera toujours le patrimoine.
Toujours le patrimoine, oui. Ça reste vraiment notre fil rouge.
Vous êtes une passionnée d'histoire, non?
Un petit peu.
Oui, j'imagine, parce que pour développer une maison d'édition sur ce thème-là, c'est quand même, il faut être, je pense, passionné d'histoire, oui. Et puis s'y connaître énormément.
Oui et non. Ah. Parce que vraiment, tous les ouvrages, on les a traités plus, presque comme des journalistes, en disant, voilà, j'arrive là, devant, et quelles sont les questions que je me pose? Qu'est-ce que j'ai envie de savoir? Pas, l'idée, justement, on veut éviter l'écueil, quelquefois, des gens hyper spécialistes, tellement que finalement, on propose un discours très complet peut-être, mais finalement pas forcément accessible à ceux qui ne le sont pas.
Mmh. Oui, de déverser un tas d'informations, voilà. Et puis bon, il y en a peut-être certaines qui vont... voilà, qui
toutes
vont
ne sont pas aussi pertinentes. Quand on est vraiment sur un grand public, après on peut avoir des gens spécialisés, c'est pour ça qu'on met toujours une large bibliographie pour ceux qui ont envie de poursuivre la démarche, mais... Moi, je veux vraiment le faire de façon plus ouverte, en disant, voilà, quelles sont les questions principales? Qu'est-ce que je veux comprendre? Qu'est-ce que je veux savoir? Et donc, en fait, là, par exemple, sur les jolis livres, on a monté le principe de collection sur le principe de dire, première partie, histoire universelle et symbolique, essentielle, pour arriver à deuxième partie, comprendre pourquoi c'est si spécifique dans la région ou dans la ville. Et là, on raconte tout de façon, entre guillemets, romancée, du début à la fin. Et comme ça, on peut aborder la partie technique ensuite, parce qu'on connaît les tenants et les aboutissants. Tandis que quand elle est distillée au fur et à mesure,
et on s'y perd un peu.
On s'y perd tous un peu et on peut décrocher. Et la dernière partie, vraiment, là, de nos jours et le futur, qu'est-ce qui se passe? Mais l'approche est plus justement en se mettant à la place de celui qui ne connaît rien.
Voilà, vous avez voulu en fait rendre accessible, vraiment accessible à tous, oui. Et simplifier un peu les choses, enfin, tout en étant quand même très documenté et très,
très
exact, mais simplifié, parce que c'est vrai que bon, c'est pas toujours évident, il y a des ouvrages, on referme vite l'ouvrage parce qu'on se dit, bon ben, il y a pas la moitié des choses que je connais, ça les explique pas vraiment, j'y comprends rien, et on referme, et c'est dommage.
Oui, c'est dommage parce qu'il y a vraiment, bon, moi je vois chaque fois qu'on fait des recherches pour les ouvrages, on a en moyenne deux ans et demi de travail par ouvrage.
Ah oui, quand même.
Mais c'est vrai qu'on a, c'est le plus dur, c'est d'élaguer, de vulgariser au bon sens du terme, d'arriver à résumer de façon, attrayante, c'est la partie la plus compliquée, mais la plus passionnante.
Ah je pense que voilà, il faut être passionné pour faire, ça. Et vous avez l'air d'être passionné, Sandrine.
C'est un métier passionnant.
ça fait plaisir de rencontrer des gens comme vous. Et donc, on rappelle le titre de ce livre, donc tout du moins de cette collection Noir d'Histoire, Chevelus UES.
Les Chevelus, oui.
Voilà, c'est Les Chevelus.
Ce sont Les Chevelus.
Les Chevelus, j'ai oublié l'article. Alors, Les Chevelus de Benoît Séverac. Alors, on le trouve bien sûr
dans toutes
partout.
Les bonnes librairies, sinon il faut l'exiger.
Voilà, sinon il faut l'exiger. Voilà, Sandrine est très directe. Il faut l'exiger. Si vous ne le trouvez pas, vous l'exigez.
Non, mais normalement il est. Oui, voilà, il est facile à trouver.
Et donc, voilà, je vous invite donc à lire ce polar historique. Hein,
oui.
Voilà. Et puis, on va peut-être vous donner les coordonnées donc, de TME, donc, qui est qui est à la Bège, l'adresse...
Introuvable, dans la zone de la Bège, rue Max Plon.
Alors, ne cherchez pas, téléphonez, c'est mieux.
On vous dira.
Voilà, donc c'est le 05 62 88 36 79, 05 62 88 36 79, et donc vous serez accueillis très, très gentiment et très chaleureusement par Sandrine Banessi, qui est ici présente, voilà. Et
on a un site internet, s'il y a des gens qui veulent consulter.
Allez-y, allez-y.
Donc c'est tme-édition,
au pluriel
avec un s.com. Voilà, donc là, vous pourrez avoir un aperçu de notre catalogue et pouvoir nous contacter par mail.
Aussi, également. Voilà avec donc ils pourront retrouver également les chevelus.
Ah oui, il y a la présentation des chevelus. Et avec le fameux quatrième couverture, qui est un extrait de l'auteur et qui est très, très beau, que je n'ai pas pu vous lire. Donc, vous pourrez le découvrir sur le site.
D'accord. Et donc, Benoît Séverac, j'imagine qu'il est de notre région également,
En fait, il est originaire de Cazères. C'est pour ça qu'en plus, lui, pour son roman, ça lui plaisait d'être dans le Comminges parce qu'il y a grandi, qu'il avait un attachement important dans cette région-là. Donc, ça lui permettait de se plonger dans l'exercice, mais avec une attache sentimentale forte.
C'est lui qui a choisi ou c'est vous qui avez dit, bon ben voilà, on a envie de faire un livre sur le décor, ça sera
Non, les décors, oui, on avait donné, moi j'avais donné des exemples de toutes les époques, tous les endroits et c'est lui qui a un peu choisi. Il est revenu d'un week-end à Rome avec son épouse, un très joli week-end où il est revenu très amoureux de la romanité, entre autres, et voilà.
Et donc, il est parti sur Saint-Martin de Comminges et donc toute cette période.
Et sur le site antique. Et pour nous, c'est remarquable parce que c'est un site qui est majeur sur un plan archéologique, difficile pour les gens quand on se retrouve au milieu de quatre pierres au sol. Et donc là, le faire renaître comme ça, c'est extraordinaire. Et on a en projet peut-être d'organiser des lectures sur le site archéologique.
Ça serait super. Vous me tenez au courant, il faut que je les annonce page à page.
Oui, on va essayer de monter ça, là. On est en train de travailler là-dessus.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sandrine, d'être venue nous parler donc de TME et puis de tout ce que, voilà, de tous les ouvrages. Et puis donc, vous reviendrez donc l'année prochaine pour la partie jeunesse.
Oui. Ah. Et puis, il y aura les nouveaux romans aussi.
Et puis, bien sûr. Donc, voilà, quand on a une maison d'édition comme ça, originale et passionnante, on ne les lâche pas.
Merci beaucoup. Merci de votre accueil, Sandrine.
On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'année avec, comme je vous le disais, une lecture d'un extrait de Chagrin d'école de Daniel Pénac. En attendant, bonne semaine, restez à l'écoute des programmes de Radio Occitanie. Adiciats. Boop-boop-be-doop.